France Info.
Bonjour à tous, bienvenue dans Les Informés, votre rendez-vous de décryptage de l'actualité sur France Info. Tous les matins à 9h30 jusqu'à 9h30, on revient sur deux thèmes qui font l'actualité, France Info Radio et France Info TV, le canal 16 de la TNT. Bonjour Renaud Dely.
Bonjour Agathe.
Et ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Aurélie Herbemont, chef adjointe du service politique de France Info. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Et Fanny Guinochet, la chronique écho, tous les matins, 7h50 et l'invité Écho les vendredis à 17h45. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Et on commence avec notre premier débat. Comment sortir du blocage? Quel scénario pour l'après Bayrou, Renaud?
Quel scénario après la chute annoncée du gouvernement? Ce sera cet après-midi. Hein. François Bayrou, on le sait, prononcera à 15h un discours de politique générale, mais il n'a, au regard des annonces des différentes forces politiques, aucune chance d'obtenir la confiance, puisque l'ensemble des oppositions, de gauche et d'extrême droite, ont annoncé qu'elles voteront contre, ce qui signifie que le rejet devrait atteindre au moins 330 voix, soit beaucoup plus que les 289 nécessaires pour obtenir une majorité, et peut-être même bien davantage, puisque le groupe LR laisse la liberté de vote à ses députés. On sait que nombre d'entre eux n'ont pas l'intention de voter la confiance à François Bayrou. Bref, quelle suite? Comment envisager la succession de François Bayrou au moment où le Rassemblement national hausse le ton et laisse entendre qu'il pourrait d'ailleurs censurer également les successeurs de François Bayrou à Matignon? Voici ce qu'en disait hier à Hénin Beaumont la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen.
Si le président décide de gagner du temps et de nommer un nouveau Premier ministre, il faut que ce dernier est bien conscience que nous resterons inlassablement les avocats des intérêts de la France et des Français. Sans prise en compte de ses aspirations, il sera lui aussi censuré. Un an d'avance pour l'alternance, voilà une immense chance pour la France.
Marine Le Pen et le RN qui avaient d'abord accordé une forme d'indulgence à Michel Barnier l'année dernière avant de le censurer. Même chose avec François Bayrou pendant plusieurs mois avant de le censurer aujourd'hui. Et est-ce que désormais le RN va censurer tous les premiers ministres de façon à aggraver la crise politique et donc à accélérer les échéances électorales? On sait que le RN réclame une dissolution. Et puis est-ce que le président de la République peut réagir vite, c'est ce qui se dit du côté de l'Élysée. Ça n'est pas vraiment l'habitude d'Emmanuel Macron. Plus de 50 jours l'année dernière pour nommer Michel Barnier, par exemple, à Matignon. Est-ce que Emmanuel Macron va réagir vite après la chute du gouvernement Bayrou et nommer un successeur dans les jours, peut-être même dans les heures qui viennent?
Alors Aurélie, expliquez-nous. Est-ce que Emmanuel Macron est capable d'aller vite?
Alors, en tout
c'est
cas,
dans son logiciel ou pas, la rapidité?
Beaucoup de ses amis, de ses soutiens et même des conseillers disent tous on espère qu'il ira vite, et disent oui, ça ira vite. Sauf qu'effectivement, vite en langage macroniste, ça ne veut pas forcément dire rapide. On l'a vu, hein, effectivement, Renaud le rappelait, 50 jours l'an dernier pour nommer Michel Barnier. François Bayrou, ça avait aussi pris du temps pour sa nomination. Sauf que là, Emmanuel Macron, il va être un peu au pied du mur. Il a effectivement souvent cette tendance à procrastiner. Mais ce que certains vous disent dans le socle commun, appelons-le comme ça, c'est qu'il faut pas laisser la situation pourrir. Et puis, il y a un calendrier un peu semé d'embûches ces prochains jours, ces prochaines semaines. On a mercredi, effectivement, le mouvement Bloquons tout. Donc, certains en Macronie disent il faut nommer un Premier ministre avant mercredi, donc demain, en gros, pour éviter que le président soit en première ligne seul face à des opposants qui pourraient crier Macron démission. D'autres disent non, il faut justement les laisser crier dans le vide et avoir un Premier ministre après, sachant que vendredi, on a le début de la saison automnale des agences de notation, ce sera Fitch, et puis la semaine prochaine, jeudi, il y a la mobilisation syndicale qui est prévue le 18 septembre, et de toute façon, à la fin de la semaine prochaine, Emmanuel Macron s'envolera pour New York et l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc, il y a un calendrier un peu contraint, il faut qu'il slalome dans ce calendrier, mais tous espèrent que ça ira vite, parce qu'on peut pas laisser la situation comme ça, avec une espèce de vacance du pouvoir, même si François Bayrou gérerait les affaires courantes le temps que le successeur soit nommé.
Vous allez nous dire si vous voyez une fenêtre de tir à Renaud Dely et puis quel profil? Surtout pour Matignon, on entend Marine Le Pen, elle censurera tout le monde. Il est un peu coincé, Emmanuel Macron. Là.
Alors la logique, je reprends ce que disait Aurélie Herbeumont, ce serait qu'Emmanuel Macron aille vite. Ça serait même son intérêt, puisque chaque jour qui va passer affaiblit un peu plus l'autorité qui lui reste. Plus le blocage va durer, s'il n'y a pas de successeur de François Bayrou, plus ça peut le mettre en péril. Mais on a vu l'année dernière et à de multiples reprises que ça ne lui fait pas peur, visiblement. Donc je ne jurerais pas qu'il ira vite. Qu'il va aller vite, on verra ce qui se passe. Le profil, c'est ça quand même la quadrature du cercle. Hein. Le problème n'a pas changé depuis le résultat des élections législatives du 7 juillet 2024. C'est que s'il nomme un Premier ministre, par exemple, issu de la gauche, on a entendu de façon répétée Olivier Faure faire des offres de service, où on évoque parfois un Premier ministre issu, en tout cas des socialistes, du côté de LR, ça a été assez confus. Hein. Laurent Wauquiez avait d'abord dit « on ne censure pas a priori », etc. Mais on peut douter et on peut penser que la droite censurerait un Premier ministre issu de la gauche immédiatement. Il faut avoir les deux bouts de l'omelette. C'est toujours le même problème pour Emmanuel Macron, c'est qu'il faut qu'il ait à la fois la non-censure des socialistes et la non-censure de LR. Et puis, vous le disiez, le RN, on le voit bien, le RN a changé de stratégie, c'est-à-dire qu'il semble bien que Marine Le Pen soit décidée désormais à accélérer les échéances électorales pour de multiples raisons sur lesquelles on pourra revenir. Et donc, le RN censurera visiblement, systématiquement, tout nouveau Premier ministre, qu'il soit issu de la gauche, du bloc central, voire de LR, parce que aussi le RN n'a pas envie de voir émerger une concurrence du type Bruno Retailleau. On voit que la droite se refait peu à peu une santé depuis qu'elle est revenue aux affaires l'année dernière.
Et que l'enjeu de cette nomination, voilà, c'est 2027.
Très clairement. Ce qui d'ailleurs, puisque, alors il y a le petit jeu des noms, mais qui va changer, qui va perdurer au cours des heures et des jours qui viennent, mais ce qui, paradoxalement, rehausse les chances de Xavier Bertrand, par exemple, puisqu'on sait que le RN qu'il censurerait Xavier Bertrand, c'est ce qui avait participé au fait qu'il ne soit pas nommé l'année dernière, sauf que désormais, le RN dit qu'il censurera tout le monde. À partir de là, le seul objectif logique, normalement, que devrait rechercher Emmanuel Macron, c'est la non-censure des socialistes. La non-censure des socialistes, ça peut conduire à un profil du type Xavier Bertrand qui est remis à niveau en quelque sorte avec les autres.
Vous êtes d'accord, Aurélien?
De toute façon, ce qui est sûr pour les macronistes, c'est qu'il ne faut pas du tout compter sur le Rassemblement national, puisque au début, éventuellement, ils peuvent laisser une chance au Premier ministre, quelle qu'elle soit, et puis quelques mois plus tard, la sentence tombe et ils le censurent. Donc clairement, là, ce qu'il faut qu'Emmanuel Macron trouve, c'est un Premier ministre qui ne soit pas censuré par les socialistes. C'est la neutralité, la bienveillance des 66 députés socialistes qu'il faut. Donc c'est vrai que le nom de Xavier Bertrand revient. Vous vous souvenez quand l'an dernier, Michel Barnier est nommé, Xavier Bertrand, quelques heures avant ou juste après, explique que lui ne pouvait pas aller à Matignon parce que Emmanuel Macron laisse le Rassemblement national décider de qui est le Premier ministre dans ce pays. Et il s'était attiré la sympathie et des messages de soutien très appuyés. Je me souviens de Marine Tondelier, de Fabien Roussel, qui avait dit voilà, il y a encore un républicain chez les républicains. Bon, entre la gauche et Xavier Bertrand, c'est pas tous les jours une partie de plaisir, mais disons qu'au moins, il avait gagné ses galons de super républicain à cette occasion.
Et il l'a redit sur France Info.
Et il l'a redit, d'ailleurs, ce qui était drôle ce week-end, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux Laurent Jacobelli, qui est un des dirigeants du Rassemblement National, face à cette hypothèse de Xavier Bertrand qui revient, parmi d'autres noms, parce qu'on ne va surtout pas dire que le nom du Premier ministre est choisi, parce que ça peut se passer beaucoup, beaucoup de choses. Laurent Jacobelli a tout de suite fait un message sur X en disant « Xavier Bertrand, c'est même pas la peine qu'il défasse ses cartons ». Sauf que si le Parti Socialiste laissait sa chance au futur Premier ministre, quel qu'il soit, Xavier Bertrand ou un autre, le Rassemblement National ne rentre plus dans l'équation.
Oui, il supprimerait la seule arme dont dispose le Rassemblement National.
Surtout dès lors que le RN dit qu'il va censurer tout le monde. S'il censure tout le monde, après tout, pourquoi pas Xavier Bertrand si celui-ci avait l'indulgence du PS. C'est vrai qu'il faut répéter, comme le dit Aurélie Herbeumont, que c'est loin d'être le seul nom en lice. On entend parler des noms de ministres en place, d'ailleurs. Sébastien Lecornu, Catherine Vautrin, comme souvent.
Gérald Darmanin.
D'autres songent à Éric Lombard, le ministre de l'économie. Lui, d'ailleurs, il songe...
Parce que lui, il est à gauche, il est proche d'Olivier Faure.
Voilà, lui, il songe... Mais ça pourrait poser un problème, évidemment, vis-à-vis de la droite, d'une part. part, et puis aussi le fait qu'il porte de fait, en tout cas, les premières orientations budgétaires de François Bayrou. Bref, c'est pas fini. Hein. Cette fois, Renon, il faut être toujours très prudent.
Alors, il y a un autre nom, Olivier Faure, quand même, parce qu'il se prépare, il a fait acte de candidature. Ça, Renaud Dely, qu'est-ce qu'on en pense en coulisses à l'Élysée? C'est vraiment une option, Olivier Faure, le patron du PS, ou pas?
C'est impossible, puisque la droite censurait immédiatement le premier secrétaire du PS. Il n'y a pas de majorité pour Olivier Faure.
Même si Olivier Faure tendait la main à la droite, impossible.
D'abord, il a dit qu'il n'y aurait pas de ministre de droite. Enfin, aucun des deux n'en veut, d'ailleurs. Si Olivier Faure arrivait à Matignon,
il veut
pas de ministre LR, et a priori pas de macroniste non plus au sein du gouvernement, et LR ne participerait pas. Mais je pense qu'Olivier Faure n'y croit pas lui-même. C'est une façon de montrer que le Parti socialiste est constructif. Mais ça ne peut pas fonctionner, puisque l'ERN, bien sûr, LR aussi censuré immédiatement. Et puis Manuel Bompard a pas manifesté un grand enthousiasme tout à l'heure sur ce plateau à l'idée qu'un socialiste arrive à Matignon. Donc on peut même se demander si LFI ne censurerait pas aussi un premier ministre socialiste. Donc ça n'a pas de crédibilité arithmétique, simplement.
Une ministre me disait hier, même les socialistes n'y croient pas parce qu'ils se disent de toute façon ça tiendrait pas deux mois. Mais c'est juste un changement de positionnement du Parti socialiste qui, souvenez-vous, après la dissolution l'an dernier, réclamait Matignon pour ce bloc du Nouveau Front Populaire. Là, on a changé. Les socialistes font un bouger en disant, bon, le Nouveau Front Populaire, pas forcément. On sait bien que de toute façon, on n'aurait pas de majorité. Les relations avec les Insoumis se sont quand même largement compliquées ces derniers mois. Non, mais c'est un bouger du Parti Socialiste qui sont bien conscients qu'ils n'ont pas très envie d'une dissolution. Donc, il faudrait essayer d'avoir un Premier ministre qui soit acceptable pour eux pour faire passer un budget.
Mais est-ce que Emmanuel Macron pourra se passer d'une dissolution Renaud Dely? On voit que la pression s'accentue même au sein du socle commun. Certains n'excluent pas une dissolution.
Alors lui n'en veut pas, il l'a dit répété. Il n'en veut pas aussi d'abord parce que ça le fragiliserait un peu plus. Une nouvelle dissolution, c'est une probable nouvelle défaite et même plus ample encore que l'année dernière des macronistes. Donc ça fragiliserait un peu plus le président de la République, hein, perdre deux dissolutions consécutives. Donc ensuite, ce serait en quelque sorte, entre guillemets, potentiellement le prochain sur la liste, le suivant sur la liste. Hein. C'est évidemment la question de sa démission se poserait après une deuxième défaite aux législatives. Reste à voir maintenant si le blocage perdure. Donc ça, ce serait une addition de toutes les oppositions. Si on additionne l'ensemble des députés des différents groupes du Nouveau Front Populaire plus le RN, il y a une censure potentielle de tous les premiers ministres successifs suivants. Donc d'où ça revient, c'est effectivement les socialistes qui ont la clé arithmétique de la sortie de crise à un moment ou à un autre. Et puis, il y a l'autre aspect, c'est l'opinion, évidemment. C'est que l'opinion, elle souhaiterait, plutôt, on le voit hein, dans tous les sondages, retourner une dissolution pour retourner aux urnes. Tout ceci arrive dans un contexte dont qu'on va évoquer dans un instant, celui de manifestation, de mobilisation. Donc il y a cette pression, y compris à travers ce mouvement assez difficile à définir, annoncé pour mercredi, là, ce fameux mouvement Bloquons Tout. Donc lui, c'est absolument pas son intérêt, Emmanuel Macron. C'est pas forcément celui non plus des socialistes, d'ailleurs, une dissolution. En revanche, elle est réclamée à corps et à cri, d'abord par le RN, mais aussi par LFI, d'ailleurs, parmi d'autres revendications.
Mais qui préférerait une présidentielle anticipée
voilà,
à LFI.
Voilà, oui. Voilà.
Mais d'ailleurs, mais ce qui est frappant, juste d'un mot, Aurélie, c'est que même des figures de la droite, comme Valérie Pécresse, qui n'est pas la plus extrémiste à droite, appellent à la démission du président.
On a effectivement entendu Valérie Pécresse. C'est quelque chose aussi que porte depuis plusieurs mois Jean-François Copé, ancien patron du parti et maire de Meaux, le maire de Cannes, et président de l'Association des maires de France, David Lisnard aussi. Lui, il dit qu'il faudrait qu'Emmanuel Macron dise que dans 6 mois, il démissionne après les municipales, histoire de ne pas trop perturber ceux qui sont maires sortants et qui voudraient se représenter. Disons qu'on entend effectivement de plus en plus de voix, y compris donc au sein de ce socle commun, donc chez les LR, pour dire que finalement, le problème de cette crise politique interminable depuis la dissolution, c'est Emmanuel Macron.
Dans un instant, quelles conséquences peut avoir ce climat d'incertitude sur l'emploi, sur le pouvoir d'achat? Mais d'abord, 9h19 et c'est l'info en une minute, Maureen Sfugnard.
La France insoumise pense déjà au coup d'après. Sur France Info, le porte-parole du parti Emmanuel Bompard affirme qu'ils déposeront une motion de destitution contre Emmanuel Macron. Il y a d'abord un vote d'importance cet après-midi. Le Premier ministre a sollicité la confiance des députés, mais ils vont très probablement voter contre, ce qui va entraîner la chute du gouvernement. France Info en édition spéciale dès midi. Journée de galère dans les transports de l'agglomération lyonnaise. Aujourd'hui, le principal syndicat appelle à la grève pour des augmentations de salaire. Les perturbations sont importantes. Les partisans de Jair Bolsonaro au Brésil défilent par milliers dans les principales villes du pays. Une démonstration de force avant la décision de la Cour suprême. L'ancien président d'extrême droite est jugé pour une tentative de coup d'État. Le verdict doit être connu vendredi. Il redevient numéro 1 mondial. L'Espagnol Carlos Alcaraz s'impose face à l'Italien Yannick Sinner et remporte l'US Open. Une victoire en 4-7 lors du tournoi de tennis américain. Sixième grand chelem pour le joueur de 22 ans.
France Info. Les informés, Renaud Dely, Agathe Lambray.
Informé du jour, Aurélie Herbe, mon chef adjoint du service politique de France Info, et Fanny Guinochet, la chronique éco. Chaque matin à 7h50, notamment, on passe à notre deuxième débat, Renaud. Chute de Bayrou, quelles conséquences économiques?
Quelles seront les conséquences économiques et financières de la chute du gouvernement? Quelle sera la réaction des marchés financiers? Quelles conséquences pour les taux d'intérêt, pour la dette, la situation des finances publiques, et puis évidemment l'activité, la croissance, l'emploi, etc. Ce qu'on sait, c'est que les milieux économiques en général et les milieux patronaux en particulier détestent l'incertitude politique. C'est ce que répétait il y a quelques jours sur ce plateau Patrick Martin, le président du MEDEF.
Ça surajoute quand même, en tout cas dans l'esprit des entrepreneurs, à ce climat d'incertitude qui n'est pas bon pour l'économie. Il y a cette situation spécifiquement franco-française et qui est désolante, mais qui s'inscrit dans un panorama général qui lui-même est assez préoccupant. Je fais évidemment référence au durcissement de la concurrence internationale, les droits de douane américains. Je lance un appel à la responsabilité. On ne joue pas avec l'économie.
Et pourtant, ce climat d'incertitude a été notamment largement alimenté par le MEDEF lui-même lorsque celui-ci a fait capoter le conclave sur les retraites, ce qui a été en quelque sorte peut-être le début de la fin du gouvernement de François Bayrou. Alors, quelles seront les conséquences économiques, financières de la chute annoncée du gouvernement Bayrou ?
Fanny Guinochet, notre experte, on a besoin de votre lumière. On entend un peu tout et son contraire. Manuel Bompard, par exemple, tout à l'heure sur France Info, disait le discours de Bayrou est totalement excessif. On n'a pas de problème avec la dette. Qu'est-ce que vous en pensez?
On a un problème avec la dette, si, si. Après, l'économie française se porte pas si mal. L'emploi va pas si mal. On a de l'épargne. On a une stabilité. On n'a pas de problème à lever l'impôt, par exemple. Donc, tout ça, ce sont des garanties pour notamment ceux qui nous prêtent de l'argent, nos créanciers ou encore les marchés. En revanche, on a quand même un problème avec la dette parce qu'on le voit, elle est très très corrélée. Nos taux d'intérêt, c'est-à-dire le montant auquel on achète nos créances, est très corrélé à l'instabilité politique. On le voit cette semaine, la dette, les taux d'intérêt français ont pris 0,2-0,3%. Donc 0,2-0,3%, comme ça a l'air de rien, mais vu le montant qu'on lève tout le temps, à la fin de l'année, quasiment, ce que l'on va juste les intérêts de la dette française, c'est 66 milliards d'euros. Donc les 0,2, c'est pas que l'épaisseur du trait. Donc ça, c'est un vrai sujet. Pour le coup, il faut reconnaître à François Bayrou de l'avoir porté. Maintenant, je sais pas si les ménages français l'intègrent dans leur vie de tous les jours, mais ça c'est une vraie difficulté.
Et c'est la France Insoumise ne nie pas non plus, mais c'est-à-dire qu'ils disent c'est pas autant la catastrophe.
On oui, a alors il y a quelque chose aussi qui est pas autant la
menace de tutelle du FMI.
Alors on n'en est pas là. Mais en revanche, les marchés financiers, il y a un critère qui regarde aussi, c'est la stabilité de la France. La stabilité politique, mais la stabilité sociale. Multiplier les mouvements sociaux, ça les effraie. Ils se disent finalement, ce pays n'est pas gouvernable, on peut pas faire de réformes. Là, maintenant, c'est vraiment ce pays, grosso modo, va se déliter. Donc, on franchit un pas supplémentaire dans la tête des investisseurs, dont on répète que plus de la moitié sont quand même étrangers. Donc, quand ils voient sur les télés, quand ils ont des retours de gens qui leur disent en France, tout est bloqué, on peut pas circuler, tu peux même plus aller sur les Champs-Élysées, il y a une montée de l'insécurité, tout ce que vous voulez, ça contribue à les effrayer. Donc c'est là où il y a un sujet de climat social qui est important. Et c'est vrai que l'instabilité, plus on va aller... Alors est-ce que Emmanuel Macron ira vite, pas vite pour choisir un Premier ministre? La prochaine étape, ça sera le budget. Donc certes, il va peut-être choisir un Premier ministre aujourd'hui, mais dans 2 mois, on se repose la question d'une stabilité du gouvernement face à un budget. Et la question, c'est aussi de savoir, c'est ce que regardent les marchés financiers, mais pas que. La France n'est pas que gouvernée par les marchés. Les Français eux-mêmes y regardent, ils le sentent. On voit, vous avez, je recevais pas plus tard que vendredi le patron de Casino et de Monoprix qui vous dit « Ah, la consommation était repartie. » Consommation, premier moteur de l'économie française. Mmh. La consommation était repartie, c'est-à-dire que les gens recommençaient à acheter dans les rayons cet été. Et là, depuis 15 jours, on voit que dans les paniers de course, finalement, on met un pied sur le frein. Donc, c'est notre premier moteur. Donc, vous voyez, il y a les ménages, il y a les entreprises, on en a un petit peu parlé, c'est vrai qu'ils ont une responsabilité. Hein. Enfin, c'est surtout le MEDEF qui n'a pas voulu conclure le conclave. Mais les petits patrons qu'on a très bien entendus sur notre antenne ce matin, ils disent, bon, quel budget on va avoir? Ça va être 44 milliards, enfin, en tout cas, une quarantaine de milliards d'euros dont il faudra faire des économies. Ça va être plutôt 20 milliards si c'est un socialiste qui arrive. Ça sera plutôt des hausses d'impôts. Eh bien, finalement, face à cette incertitude, qu'est-ce qu'on fait? C'est assez rationnel, hein. Les agents économiques sont rationnels.
On attend
de voir ce qui se passe. On met de l'argent de côté. Je faisais une chronique ce matin sur le prix de l'or. Le prix de l'or qui s'envole, y compris en France, où les gens, vous allez dans les boutiques, les gens vont acheter de l'or. Donc, vous voyez, c'est plein de
petits comportements. Vous-même, vous y êtes allé d'ailleurs,
Fanny. J'y suis allée, j'en ai beaucoup, j'en ai plein, vous le savez bien. J'ai des lingots sous mon matelas.
Bon, et quelles conséquences ça peut avoir sur la préparation du budget, Aurélie, ce climat d'incertitude? Ça va mettre la pression
de toute façon,
forcément à celui qui en sera chargé.
Le futur Premier ministre, quel qu'il soit, sait que son Himalaya à lui, pour reprendre une phrase de François Bayrou quand il est arrivé à Matignon, ça va être de construire un budget fait assez rapidement, puisque le calendrier est assez serré. Hein. Il faut que le 7 octobre, il soit adopté en Conseil des ministres et que le 13 octobre, il soit transmis aux assemblées, donc Assemblée nationale et Sénat. Et donc, avec... Le but quand même pour le futur Premier ministre, c'est que ce soit un budget, pas qu'il soit adopté, parce que ce faut quand même pas croire au miracle, mais au moins qu'il ne soit pas censuré. Sinon, rebelote, vous avez pas de budget, il faut passer une loi spéciale, il faut attendre février pour avoir un nouveau budget, parce qu'il faut
mais
avoir
donc,
le 31 décembre.
Un peu minimaliste.
Forcément.
C'est un budget qui devra avoir le moins d'irritants possible vis-à-vis des socialistes, sachant que les socialistes, eux, ils ont des idées pour le budget en disant, il faut augmenter la taxation sur les plus riches, sucrer un peu dans les aides aux entreprises. Donc tout ça, ça peut avoir des conséquences aussi sur le climat économique. Donc ça va être un budget très compliqué à faire, sachant que le but, évidemment, c'est qu'il ne amène pas à un nouveau renversement du gouvernement.
Et la toute première conséquence qui est a priori inévitable, c'est qu'il n'y aura pas 44 milliards d'euros de réduction de déficit qui était l'effort programmé par François Bayrou. Il y aura forcément moins, voire beaucoup moins, ce qui aura aussi d'ailleurs des conséquences sur la situation financière du pays.
Ça aura des conséquences aussi vis-à-vis de nos partenaires européens, parce que les 44 milliards, ils sont inscrits dans un plan qu'on a transmis à Bruxelles. Donc ça pèse aussi, après vous disiez, Emmanuel Macron part aux États-Unis, mais ça va peser aussi sur la voie de la France. C'est la crédibilité de la France à un moment où on est en train de négocier un certain nombre de dossiers extrêmement brûlants et importants de paix, de discussion sur les grands équilibres.
Oui, une forme de déclassement de la France à l'international aussi lié à ce climat d'incertitude. Merci beaucoup Fanny Guinochet, la chronique éco tous les matins 7h50 et l'invité éco les vendredis à 17h45. Merci Aurélie Herbemont, chef adjointe du service politique. Renaud, on se retrouve demain
absolument
matin.
À demain.
Voilà. Et comme tous les jours, ce soir, les informés à 20h avec Victor Matet.